grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Comment parler de certains sujets sensibles aux tout-petits? Vous avez été nombreux à nous réclamer une seconde émission, et bien la voilà ce matin. Et ce matin, comment dire à un tout-petit que ses parents vont divorcer, se séparer, que leur grand frère ou leur grande sœur est en situation de handicap? Comment leur dire non? Comment leur parler de sexualité? Comment leur expliquer leurs origines, qu'il s'agisse d'adoption ou de procréation médicalement assistée? Comment évoquer certains sujets philosophiques, comme la mort? Car nous verrons que les jeunes enfants sont bien souvent de très bons apprentis philosophes. Pour nous éclairer ce matin, la psychiatre Marie-Noëlle Clément, l'infirmière puéricultrice Anne Lucas, la docteure en philosophie Martine Lafont et le psychologue belge Bruno Humbeck. Et vous, comment parlez-vous de certains sujets délicats avec vos tout-petits? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. Quoi de neuf dans votre...
Et bien, journal. Nous allons nous poser une question que se posent beaucoup de jeunes familles avec des enfants. Pourquoi se loger est-il si cher?
A tout à l'heure, Julien Bisson. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bienvenue à nos invités. Bonjour, docteur Marie-Noëlle Clément.
Bonjour, Ali.
Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, directrice de l'hôpital de jour pour enfants André Bouloche, et vous publiez en poche et pocket Comment te dire savoir parler aux tout-petits. Anne Lucas, vous êtes infirmière puéricultrice et vous êtes responsable d'un centre de protection infantile et maternelle dans le 18e arrondissement de Paris. Martine Lafont, vous êtes docteur en lettres et philosophie et vous avez notamment publié l'agenda de l'apprenti philosophe aux éditions de La Martinière. Bruno Humbeck, vous êtes psychologue, expert de cette émission et vous êtes chercheur à l'université de Mons en Belgique. Alors Marie-Noëlle Clément, comment parler vrai aux tout-petits? Rappelez-nous les grands principes pour ceux qui auraient loupé la première émission consacrée à ce sujet.
Alors, parler aux tout-petits, donc là, on parle des 0-6. Alors évidemment, c'est pas pareil pour les bébés, pour les 5-6 ans, mais en tout cas, toujours penser à parler simple, des phrases courtes. Les tout-petits n'ont pas encore de notion de temporalité, hein, avant l'âge de 3 ans, 4 ans, c'est compliqué la temporalité. Donc parler au présent, des phrases courtes, des mots simples, se placer à hauteur d'enfant, à la fois dans son discours, mais aussi physiquement, parce que c'est très impressionnant quand un adulte de toute sa hauteur s'adresse à un tout petit enfant. Mettre son discours en accord avec ses émotions.
C'est-à-dire
C'est-à-dire ne pas dire que tout va bien si on se sent profondément triste. Pouvoir dire effectivement ses propres émotions, sa tristesse, sa colère, etc.
Et dédramatiser aussi.
Et dédramatiser, bien sûr.
Bruno Humbeck.
Alors, ne pas rajouter son propre traumatisme à l'éventuel traumatisme de l'enfant. Il faut savoir que l'enfant a des capacités, ça vient d'être dit d'ailleurs, de raisonner au présent. C'est une vraie force, hein, c'est-à-dire qu'il vit ce qu'il est en train de vivre, il n'anticipe pas. Le traumatisme, c'est très souvent l'anticipation. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette mort? Qu'est-ce qu'on va devenir après cette séparation? Et lorsqu'on rajoute son propre traumatisme d'adulte à la représentation que s'en fait l'enfant, on risque finalement de faire plus de dégâts qu'autre chose.
Martine Lafont, contrairement à une idée reçue, les enfants sont équipés pour entendre des choses compliquées.
Ah oui, tout à fait. Et puis surtout, on est là aussi pour les aider à démêler tout ça. Donc la philosophie, elle est là pour provoquer la curiosité, hein, pourquoi. Et puis aussi pour apporter un certain nombre d'outils pour réfléchir. Donc nous, on le fait par le biais du livre, ou par le biais, on avait eu un livre très intéressant avec Gilles Deleuze, des phrases de Gilles Deleuze, et il disait une phrase que les enfants prenaient au bon et s'amusaient beaucoup avec cette phrase, c'est « Penser, c'est toujours suivre une ligne de sorcière. » Et pour eux, c'était vraiment, ils comprenaient vraiment ce que ça voulait dire, parce qu'ils me disaient « Mais tu vois, elle fait des bonds comme ça dans le ciel. » Et effectivement, la pensée, elle va d'une chose à une autre, et donc elle zappe, elle bouge, et elle est en mouvement. Donc c'est ça qui est intéressant de développer avec eux.
Anne Lucas.
Et puis, moi, je rajouterais à toutes ces belles choses que provoquer le dialogue, c'est intéressant aussi, pouvoir questionner l'enfant. Et toi, t'en penses quoi? Et toi, tu ressens quoi? C'est intéressant. Et puis, ne pas oublier qu'on n'est jamais tout seul et que si on n'y arrive pas tout seul, on peut aussi demander de l'aide au conjoint, au grand-père, grand-mère ou professionnel. C'est important.
Mais il y a des auteurs qui ont très bien montré comment on parlait aux enfants. Je prends l'exemple de Walt Disney très souvent parce que quand il explique la mort, il l'explique pas en fait, il l'illustre. un coup de fusil, pan, ta mère est morte, va voir ta tante, hein, c'est très très économique.
Bambi.
Et c'est effectivement, beaucoup de parents laissent leur enfant seul devant Bambi, on apprend quand même les choses essentielles. La mort est un définitif non-retour, tu ne reverras jamais ta mère, et tu peux aimer ta mère tant que tu veux, tu n'empêcheras pas de mourir. Donc on ne peut pas non plus empêcher l'autre de mourir. Ce sont deux apprentissages essentiels, c'est fait de façon très économique, et ça suggère une idée, le temps va aider à réparer les choses. Et l'enfant tout petit est en mesure de le concevoir, que le temps va passer et qu'on va pouvoir, non pas vivre comme si ça n'avait pas été, mais vivre avec. Et c'est ça le principe de résilience qu'on apprend très très tôt dans le développement de l'enfant.
Rappelez-nous ce qu'est la résilience.
La capacité, ben justement, une parole qui rebondit, faire des bonds de sorcière, c'est parfait. C'est ça aussi la résilience. C'est un peu faire des bonds de sorcière au-dessus de ce qu'on vit, pas pour faire comme si ça n'avait pas été, mais pour vivre avec.
Marie-Noëlle Clément, comment dire à un tout petit que ses parents vont se séparer, vont divorcer? Quelles sont les grandes règles?
Alors, déjà, si on part du tout début, la séparation, elle survient rarement dans un ciel parfaitement serein. Donc, en général, il y a eu des disputes, il y a eu quand même des signes avant-coureurs. Donc, ça aussi, quand on se dispute à la maison, pouvoir dire à ses enfants qui ont entendu forcément, on s'est grondé, tu n'y es pour rien, c'est des histoires entre nous, c'est des histoires d'adultes. Voilà, ça permet aussi à l'enfant de se préparer au fait que il y a des choses qui vont pas très bien entre papa et maman. En même temps, toute dispute ne signifie pas forcément séparation, hein, donc ça, il faut pouvoir aussi rassurer les enfants là-dessus à certains moments. Quand on a décidé de se séparer, il faut l'annoncer au moment où on est sûr que ça va se produire et au moment où on a un petit peu quelques billes sur l'organisation future. Parce que dire à un enfant « on va se séparer » et puis rien ne se passe, c'est très troublant parce que voilà, on vient d'annoncer quelque chose et puis ça n'est pas suivi d'effet. Donc il faut pouvoir expliquer comment ça va se passer, deux maisons, etc. Enfin voilà, l'organisation pratique, parce que pour un tout petit, c'est quand même aussi ça qui est important. C'est qu'est-ce que ça va changer dans sa vie quotidienne. Et puis un point vraiment très important, le dire ensemble. C'est-à-dire que il faut être deux pour se marier ou se mettre ensemble ou faire un enfant. Et ben il faut être deux pour se séparer aussi et le dire ensemble, que tout le monde entende la même chose au même moment, c'est vraiment important.
Et surtout autoriser l'enfant à se sentir concerné, parce qu'il est inévitablement concerné, mais à ne pas être impliqué. Le drame des séparations, c'est l'auto-aliénation parentale, c'est-à-dire quand l'enfant se croit obligé, par exemple, de prendre le parti du parent qui souffre le plus. Ça, c'est vraiment une vraie difficulté. Et le vrai traumatisme, c'est pas toujours la séparation, c'est cette obligation qu'on se donne de prendre parti pour l'un par rapport à l'autre. Et donc d'arbitrer un conflit parce qu'on est pris comme témoin, parce qu'on est pris à témoin ou parce qu'on est pris pour témoin. C'est pour ça que permettre à l'enfant de se désengager, je crois que c'est vraiment le discours consensuel de base qu'on doit avoir quand on est parent.
Al-Nuka.
Ça nécessite aussi aux parents d'être adultes, c'est-à-dire que c'est pas une guerre pour savoir qui va avoir l'enfant, comment l'enfant va être gardé, demander l'avis à l'enfant, tu vas chez papa ou tu vas chez maman, ne pas hésiter aussi, avant de parler à l'enfant, de pouvoir faire que l'enfant soit un peu en dehors de ses disputes et de ses conflits. Et moi, j'ai l'idée aussi que l'aide de l'entourage, quand il y en a, bien sûr, c'est quand même précieux. Parce que on évite, comme vous dites très justement, dans des histoires de pouvoir, de jeu, pour lequel l'enfant est bien trop petit et pas du tout préparé.
Faut-il parler de la cause de la séparation aux enfants, Marie-Noëlle Clément?
Alors, oui et non. C'est-à-dire, on se sépare parce que on ne s'aime plus autant. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut être dit et c'est même important de le dire. Que l'enfant comprenne de quoi il s'agit. En revanche, savoir que papa ou maman a rencontré un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, c'est pas encore le moment à ce stade-là. Voilà.
Comment déculpabiliser les enfants, Bonhomme-Beck?
Justement, en termes de cause, le mettre hors cause. Ça, c'est vraiment un préalable. C'est pas les causes de séparation, c'est souvent des motifs. On a des motivations de se séparer. Ces motifs regardent les adultes, effectivement, et impliquer l'enfant à l'intérieur de ces motifs, bah, c'est parfois une façon de les adultifier beaucoup trop tôt, parce que ce sont des mécanismes qu'ils ne comprennent pas toujours. Et ce qui est très compliqué aussi, c'est quand on lui fait pencher la balance. C'est-à-dire quand on l'amène à le prendre à témoin. Regarde ce que tu fais devant... Le petit, lui, il va te dire exactement qui tu es. Ou demande-lui au petit si il n'est pas triste parce qu'on se sépare. Et vous avez à ce moment-là de l'auto-aliénation qui commence à se manifester, qui est beaucoup plus sourde et plus lourde souvent que l'aliénation parentale.
Et puis rassurer sur des choses du quotidien très pratiques, c'est-à-dire exactement comme vous disiez, aujourd'hui tu dors là, demain on va faire ça, aujourd'hui on fait ça. Vraiment, la temporalité de l'enfant est très court. Donc c'est vrai, anticiper, non mais de toute manière dans 2 semaines chacun va prendre un appart, voilà, c'est pas du tout possible pour l'enfant, c'est vraiment très très concret.
C'est vrai pour tous les traumatismes. J'ai un souvenir très précis d'un enfant à qui, par professionnellement, je vais annoncer le suicide de son papa. C'est très très dur, et on doit effectivement le faire en utilisant les mots, hein, tout ce qui a été dit tout à l'heure, évidemment, en expliquant ses propres émotions aussi. Mais je me souviens de sa réaction. Il me demande, mais est-ce que je peux quand même regarder Bob l'éponge ? Et pour lui, c'était dans l'immédiat, il fallait qu'il puisse regarder Bob l'éponge et évidemment le rassurer sur le fait qu'il garde la maîtrise de sa temporalité, donc de l'instant. La différence entre un enfant et avec un adolescent, ça va être très différent, c'est qu'un enfant a un moi qui ne se diffracte pas dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'a pas de notion de lui-même se racontant dans une histoire, il est juste quelqu'un qui se pose dans la vie. Et donc, on doit lui permettre de se poser dans un instant. L'instant peut être difficile et il peut être camouflé éventuellement par un dessin animé.
Et puis parfois, alors là vous parliez de la mort, c'est vrai, mais ça peut être de la séparation, il y a un adulte dans la famille qui est désigné pour annoncer, qui n'est pas forcément les parents. Dans beaucoup de cultures, c'est pas du tout les parents qui annoncent ça, ce sont un membre très précis de la famille, un oncle, une tante, un grand-père, et il faut avoir très s'appuyer là-dessus aussi parce que ça peut être précieux.
Le regard de la philosophe sur cette question de la séparation que l'on doit annoncer au tout petit.
Alors j'allais dire, à ce moment-là, je déplacerait le sujet et je demanderais aux parents qu'est-ce qu'aimer. Qu'est-ce qu'aimer, qu'est-ce que ça implique, quelles sont les valeurs morales qu'on met en jeu ou pas. Et donc, pour les enfants aussi, c'est important de leur apprendre qu'est-ce qu'aimer. C'est pas un jeu d'enfant de s'aimer. Il y a vraiment une responsabilité. Quelle responsabilité j'ai pour l'autre et parfois, comme le disait Lévinas, pas forcément une responsabilité. Ça peut être une responsabilité plus grande. Et pas seulement alternatif comme ça, ou réciproque. Hein. Donc c'est vraiment intéressant que l'enfant comprenne tout petit que l'autre n'est pas un objet, mais un sujet. Et que effectivement, quand ça tourne mal, on peut toujours se reposer cette question-là. Qu'est-ce que c'est qu'aimer pour moi ?
Annika.
Et puis moi, j'ai juste envie de rappeler un peu l'attachement, parce que j'y suis attachée, effectivement. Mais aimer, c'est vrai. Et puis, se sentir en sécurité et savoir à qui on est attaché et à qui on va pouvoir demander de l'aide quand on va se sentir trop malheureux. D'avoir cette liberté-là, c'est important. Et de le dire aux enfants aussi.
Marie-Noël Clément, comment on rassure les tout-petits qui, justement, peuvent être traumatisés, même si on fait tout bien, tout comme il faut? Comment on les rassure?
Alors, moi, j'ai envie de dire, soyons aussi très concrets, hein, c'est-à-dire que ça passe aussi par des toutes petites choses. Si on a 2 maisons, ça passe par le fait que des objets importants de l'enfant vont pouvoir exister dans les 2 maisons, parce que ça fait lien entre les 2 lieux. Ça passe par le fait que l'autre parent continue à exister. Et pas que de manière négative dans le discours du parent chez qui l'on habite, par exemple. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui permettent de faire lien dans le discours. Si on n'est plus un couple conjugal, on demeure un couple parental. Et ça, c'est extrêmement important de le garder en tête.
Voilà, c'est ça les différents types d'attachement. Il y a un attachement qui va durer, qui va perdurer, c'est l'attachement vis-à-vis des enfants. Ça, il faut pouvoir serrer les choses. Il y a le couple conjugal qui peut mourir et laisser place à un couple parental qui continue à fonctionner même si les gens ne s'entendent plus.
Comment vous y prenez-vous pour parler de certains sujets sensibles avec vos enfants ou petits-enfants? 01 45 24 7000. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Alexia Lacour avec l'aide de Nicolas Beauve, et c'est réalisé par David Leprince.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es?
quoi, qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?
Stromae, interprété Papa Outé.
Papa?
Oui?
Comment on fait un bébé?
Grand bien vous fasse.
Eh bah, ben, c'est facile. C'est quand la cigogne met un nid dans une cheminée, et voilà.
À lire et béi.
Papa, ça veut dire quoi, mourir?
Bah, tu vois ta grand-mère?
Non, je l'ai jamais vue.
Eh bah, ben, voilà.
Sur France Inter.
10h23, comment parler aux tout petits de certains événements de la vie. Colline, sur notre page Facebook, nous dit « Comment savoir ce que comprend un petit qui ne parle pas encore? Mon fils a 18 mois et je ne sais pas ce qu'il comprend par rapport à ma grossesse et à sa petite sœur qui arrive dans un mois. Comment trouver les mots avant l'accouchement, puis après, quand il ne sera plus fils unique ?» Marie-Noëlle Clément, je rappelle que vous publiez « Comment te dire ?» Qu'est-ce qu'on dit à ce petit garçon de 18 mois qui ne parle pas encore?
Alors, j'ai envie de dire, il faut pas trop se soucier de savoir ce que les bébés comprennent, parce que sinon on dit rien du tout, hein, voilà. Donc c'est très important que cette maman mette des mots effectivement sur le bébé qui va arriver. Alors la question que posent les parents, c'est souvent quand? Quand est-ce qu'on le dit? Alors, on s'assure effectivement que la grossesse démarre sous les meilleurs auspices, donc on attend souvent le premier trimestre réglementaire. Et puis, en tout cas, il faut le dire avant que ça se voit. Voilà, ça c'est un repère assez simple à avoir en tête.
Comment l'annoncer à un enfant un peu plus grand, de 2-3 ans, de l'arrivée de cette petite sœur ou de ce petit frère?
Alors, moi je dis toujours, on peut parler d'une grande nouvelle plutôt que d'une bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle pour les parents et souvent pour la famille, mais pour le tout petit qui va voir arriver un plus petit encore qui risque de le détrôner, c'est un peu ambivalent quand même, hein. Donc ne l'obligeons pas forcément à se réjouir de quelque chose qu'il va peut-être percevoir comme une menace. Donc voilà, une grande nouvelle me paraît plutôt appropriée.
Bruno Humbeck, psychologue.
Alors, tenir compte de l'âge de l'enfant, alors c'est vrai qu'on a à notre disposition des outils très intéressants, par exemple ce qu'on appelle le mamanais. Le mamanais, c'est la façon dont les mamans vont parler aux enfants. Le papanais est un peu moins développé, hein, pour des raisons qu'on ne va pas analyser ici, mais le mamanais permet de donner une musique à ce qu'on dit. Et dans un premier temps, c'est cette musique qui est importante. Il va falloir effectivement mettre des mots, et les mots vont être importants, parce que c'est les mots qui vont contenir l'angoisse, hein, dans tous les cas de figure. Hein. Quand on dit à un enfant « maman » ou « mamie », est morte, ben ça contient l'angoisse. Plutôt que mamie s'est éteinte. Ça voudrait dire que mamie est une bougie. Ou est montée au ciel, on attend qu'elle retombe. Ou elle est partie faire un grand voyage, on attend qu'elle revienne. Les enfants n'ont pas le sens de la métaphore. Donc il faut annoncer clairement ce qui va arriver avec la musique qui va avec, c'est-à-dire le son qui va avec, et ne pas ajouter de nouveau son propre traumatisme à celui de l'enfant. Moi, je vois beaucoup de parents qui consultent en anticipant un traumatisme qui, en fait, n'a absolument pas lieu d'être. De toute façon, il y a une chose qui est vraie, c'est que le réel cogne. L'enfant, il sera là, que tu le veuilles ou non. Et donc, on n'est pas en train, par exemple, de t'interroger. Est-ce que tu as envie d'avoir un petit frère ou une petite sœur? Ça, c'est donner un pouvoir excessif à un enfant. Il y a un petit frère, il y a une petite sœur qui vont arriver. Dis-moi ce que tu en penses. C'est parfois plus intéressant d'ailleurs de le faire comme ça que de l'annoncer en disant ce que nous, on en pense.
Anne Lucas, infirmière puéricultrice.
Oui, et puis c'est remettre de la normalité et pas non plus en faire tout un plat tout le temps. Voilà. Je crois que plus les enfants sont petits, plus les choses viennent dans leur heure et dans leur temps. On peut annoncer, on continue la vie du quotidien, on en reparle de temps en temps. Et puis le bébé arrive et après on prend les choses au fur et à mesure. Je crois qu'il y a aussi cette temporalité qui est importante et que c'est vrai que nous, on peut être très, les parents peuvent être très heureux de cette nouvelle, vraiment débordés un peu. Bon, le tout petit, si on se remet à sa hauteur, le quotidien, il ne change pas beaucoup pour lui quand même.
Le regard de notre philosophe Martine Laffont.
Oui, moi, l'avenue d'un enfant, effectivement, pour nous, c'est l'énigme des origines. Donc, c'est à la fois la naissance et la mort. Et pour la philosophie, c'est la question, j'allais dire, presque primordiale. Et je vous rejoins en disant que les mots ont un sens. Et c'est vrai que souvent, quand je rencontre des enfants, je leur dis, les mots ne sont pas des coquilles vides. Ils ont des couleurs, ils ont des intensités, des émotions, etc. Mais la métaphore peut être trompeuse, bien qu'on l'utilise, nous, le mythe nous sert aussi. Si on prend la plus ancienne épopée, celle de Gilgamesh, s'il va se poser la question en voyant son ami mourir, c'est la première fois qu'il voit quelqu'un mourir, il se dit « mais est-ce que moi aussi je vais mourir ?» Donc c'est vrai qu'on peut passer par ce biais du conte, de l'histoire, et on en parlait tout à l'heure. Mais attention, c'est que effectivement, lorsqu'on emploie une métaphore, et vous le disiez très bien, on pense qu'elle va revenir. Qu'elle est partie, on l'a accompagnée pour son dernier voyage. Bah alors pourquoi moi j'ai pas pu l'accompagner? Donc c'est ça qui est important, le langage.
Bonjour Francisca, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Francisca, vous avez une question très précise à poser à nos invités.
Oui, en fait, je voulais savoir parce que je suis aussi divorcée il y a 3 ans. Mmh. Et mon ex est parti avec une autre quand j'étais à l'hôpital. Donc je voulais savoir. Pour mon fils, c'est très, très compliqué au jour d'aujourd'hui. Il pense que son père l'aime plus. Mm-hmm. Moi, j'essaie de le rassurer en disant il t'aime encore, mais parce qu'il est con, mais bon, ça marche pas tellement. Il voit un psychologue, mais moi, je voulais savoir, à ma position, qu'est-ce que je dois faire en tant que mère? En fait, je me sens coupable qu'il m'aime, qu'il en veut à son père.
Bruno Humbeck.
Je sais pas comment. Et puis il prend tout sur ses épaules. Ma maladie, la séparation, le fait que son père l'aime plus, je sais pas quoi faire au fait.
Rappelez l'âge de votre enfant, Francisca.
Il a 8 ans aujourd'hui, mais c'est arrivé, il avait 3 ans.
C'est vraiment une situation typique qui pourrait provoquer de l'auto-aliénation parentale, parce que dès qu'on change le nom, ton papa n'est plus un papa, c'est devenu un con. C'est très difficile d'aimer un con. Et donc pour cet enfant, effectivement, il faut qu'il puisse s'autoriser à aimer en attendant un retour. Alors évidemment, ce retour ne viendra pas toujours, hein, parce qu'il faut quand même accepter l'idée que la réalité, ça cogne. Cette maman a visiblement été cognée dans sa réalité par une histoire d'amour qui n'a pas été aboutie. Et la réalité, elle est celle-là. Et ça, l'enfant va devoir la concevoir. Papa est parti. C'est pas pour ça qu'il ne t'aime pas. C'est sans doute parce qu'il souhaitait plus vivre avec maman. Ça doit être dit de cette manière-là. Je pense qu'il faut éviter de vouloir à tout prix préserver l'enfant du choc des réalités. C'est comme ça qu'on produit le plus de dégâts. Tu vas avoir un petit frère. Point. Ça, c'est un bloc. Après, on peut discuter de tout. Ton papa est parti, c'est un autre bloc. Ce con est parti, c'est très différent. Parce que dès qu'on met un sobriquet à la place de l'identité de quelqu'un, ce quelqu'un est devenu ce sobriquet, et il y a derrière ce mot une forme d'inautorisation à aimer. Parce qu'on se dit, je ne peux pas aimer quelqu'un que maman trouve effectivement être un con.
Marie-Noëlle Clément.
Oui, tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je voudrais juste rajouter aussi que quand l'un des deux parents est très dénigré aux yeux de l'enfant, c'est aussi très compliqué pour l'enfant parce que l'enfant vient de ce parent-là. Donc si ce parent n'est pas estimable, comment lui qui vient pour partie de ce parent-là pourrait l'être ? Donc voilà, attention à ça aussi.
Anouka.
Et puis on parlait un peu des origines tout à l'heure. Je crois que dans ces moments difficiles où on ne sait pas où est le papa, si le papa va revenir s'occuper de l'enfant, qu'est-ce que ça représente pour l'enfant, on peut de toute manière reparler de comment cet enfant est venu au monde avec ce papa et cette maman et comment il a été conçu et comment il est arrivé au monde. Parce que ça, c'est quelque chose qui reste de l'ordre du positif, a priori, et c'est le début de sa vie aussi. Donc ça peut aussi poser une base qui après peut l'aider dans ce moment-là où effectivement le père disparaît, où le père ne répond plus à son rôle de père.
Effectivement, quand on se sépare et qu'on peut avoir des griefs l'un contre l'autre, on peut toujours rappeler à l'enfant que, heureusement, à un moment donné de notre vie, on s'est rencontrés et on s'est aimés, ce qui a permis d'avoir un merveilleux petit garçon ou une merveilleuse petite fille comme toi, voilà.
Martine Lafont.
Oui, moi j'allais dire, qu'est-ce qu'on fait de la souffrance? Comment on réfléchit sur la souffrance? Comment on arrive à la transcender? Effectivement, on va peut-être arriver à la dire, mais dire sa souffrance, c'est aussi parfois essayer de la surmonter. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas la négliger, cette souffrance-là, parce qu'elle fait des dégâts, quoi.
Et puis encore un tout petit peu, c'est là, on parle de la maman et de son enfant, il faut que cette maman soit pas toute seule. C'est ça aussi, c'est que si cette maman est entourée et qu'il y a d'autres adultes autour de l'enfant qui peuvent devenir des référents, qui peuvent dire, qui peuvent expliquer, parce que c'est trop dur pour la mère de pouvoir dire, jusqu'à en arriver à dire le mot con par exemple, et ben non mais c'est vrai, c'est intéressant aussi.
Merci beaucoup Francisca, j'espère que nous vous avons éclairé.
Tu comprends ce qui s'est passé? Tu comprends pourquoi ces gens, ils ont fait ça?
Oui, parce qu'ils sont très 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 méchants. Les méchants, c'est pas très gentil, les méchants. Et il faut faire vraiment attention, parce qu'il faut changer de maison.
Mais non, t'inquiète pas. On n'a pas besoin de changer de maison. C'est la France, notre maison.
Mais il y a des méchants, papa.
Oui, mais il y a des méchants partout. Il y a des méchants partout.
Ils ont les pistolets, ils peuvent nous tirer dessus parce qu'ils sont très très méchants, papa.
C'est pas grave, ils ont des pistolets, nous on a des fleurs.
Bah les fleurs, ça fait rien, c'est pour...
Si, regarde, tu vois, tout le monde pose des fleurs. Oui. C'est pour combattre les pistolets.
C'est pour protéger.
Voilà.
Et les bougies aussi.
C'est pour ne pas oublier les gens qui sont partis. Hein.
C'est pour nous protéger, les fleurs et les bougies.
Ça va mieux du coup ?
Oui, ça va mieux.
Extrait de l'émission Quotidien le 15 novembre 2015 après les attentats du Bataclan et dans certains quartiers de Paris. On vient d'entendre Brandon, Marie-Noëlle Clément.
Oui, c'est un petit extrait très très émouvant vraiment. Alors bon, c'est évidemment une question très compliquée. Alors on a beaucoup été interrogés, hein, les psychologues, les psychiatres suite aux attentats, comment en parler aux enfants, etc. En tout cas déjà en parler parce que c'était un véritable séisme quand même dans le pays et donc ça ne passe inaperçu aux yeux d'aucun enfant. Ils en parlaient entre eux dans les cours de récréation, etc. Et certains parents disaient mais moi il n'a pas vu d'image à la maison, on n'a pas du tout mis la télévision, etc. Oui, bien sûr, mais on vit tous dans une société qui est celle-ci, donc voilà. Alors, je pense que c'est important de mettre des mots, de dire aussi l'émotion qu'on a, de ne pas cacher l'émotion qu'on peut avoir, qu'effectivement, il s'est passé quelque chose de dramatique, que ce genre de choses n'arrivent pas tous les jours, hein, c'est quand même important de le préciser, sans quoi, voilà, on a l'impression, alors même si on a le sentiment que c'est quelque chose qui peut se renouveler, mais malgré tout, ça reste une situation quand même très exceptionnelle. Et puis, effectivement, pouvoir mettre des mots sur ses émotions, ça je crois que c'est vraiment fondamental.
Bruno Beck.
Alors je crois que c'est vraiment effectivement là qu'on aura les pistes d'action les plus profitables. J'entends ce petit dialogue très émouvant effectivement, mais on sent, ça vacille des deux côtés. Ce qui est important de savoir, c'est que pouvoir dire qu'on a peur, éviter que cette peur devienne de l'inquiétude et de la terreur, c'est ça l'enjeu d'un être humain qui veut continuer à fonctionner, et on doit pouvoir le transmettre à ses enfants. On l'a fait dans une petite expérience qu'on avait réalisée à l'université, où on a suivi des parents. Certains parents disaient à leur enfant « n'aie pas peur ». On le disait à l'école, mais on le serrait un petit peu plus fort, parce que, évidemment, cette peur passait, mais on lui disait « n'aie pas peur ». D'autres disaient « tu as peur, c'est normal, j'ai peur aussi ». Et on a analysé le fonctionnement de ces enfants. les deuxièmes catégories d'enfants avaient des mécanismes de défense beaucoup plus efficaces. Ils regardaient par exemple autour d'eux, ils voyaient des tas de policiers, de militaires masqués, et ils ont développé ce qu'on appelle l'effet Zorro. Ils se sont dit, mais on est surprotégé par des super-héros, parce que quand vous avez un masque, vous devenez très vite un super-héros, puisque vous perdez votre visage singulier pour avoir un visage commun, et c'est l'autorisation qui était donnée à l'enfant d'avoir sa propre émotion, parce que le parent avait dit la sienne. Le parent qui ne dit pas son émotion n'autorise pas son enfant à avoir sa propre émotion.
Martine Lafont, de votre point de vue de philosophe, comment aborder la mort avec les tout-petits ?
Alors, pour nous, comme pour les adultes, c'est très difficile d'aborder la mort. Donc, moi, je dirais que, évidemment, vous pouvez toujours vous réfugier derrière la phrase de Montaigne, que philosopher, c'est apprendre à mourir. Moi, ce que je trouve qu'il faut leur apprendre, c'est à vivre. C'est-à-dire que effectivement, la mort, quand ils vont la constater, quand ils vont vivre celle de quelqu'un qu'ils aiment, etc., c'est très douloureux. Et ça, et après, il faut que l'absence devienne présence. Et pour un enfant, c'est très compliqué, et même pour un adulte. Mais leur dire finalement, ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est la vie, c'est être dans la vie et avancer. Ça, je pense que ça peut être positif. Je ne sais pas ce qu'en pensent les...
Julien Bisson, de l'hebdomadaire Le 1.
Mais il se trouve que ce matin, justement, mon fils a posé cette question qu'on a entendue tout à l'heure dans un petit extrait. C'est quoi mourir ? Et c'était très difficile de répondre, parce que c'est quoi être mort ? Il me l'a déjà posé plusieurs fois auparavant, et c'est presque plus facile de
rappeler
répondre.
Rappeler son âge ?
Il a 3 ans. Et c'est quoi être mort ? C'est plus facile de répondre. Il est mort, il n'est plus en vie, Et c'est quoi mourir ? Là, d'un seul coup, j'avais beaucoup plus de mal à répondre à cette question parce qu'on est dans un processus, on est dans quelque chose qui, un processus qui fait partie de sa propre vie. Et d'ailleurs, je serais peut-être curieux de savoir comment répondre à une question comme « c'est quoi mourir ?»
Je crois que c'est important de savoir que la mort n'existe pas aux yeux d'un enfant. C'est quelque chose qui n'existe pas. L'angoisse de la mort n'existe pas, c'est l'angoisse de la séparation. Walt Disney l'a bien compris avec Bambi. Hein. Bambi, vous avez l'angoisse que l'enfant ressent quand il est séparé de sa mère et l'angoisse que le parent ressent à l'idée de la mort. Donc répondre à une question à un enfant de 3 ans, par exemple, c'est quoi mourir ? Eh ben, mourir, c'est être séparé de quelqu'un qui ne reviendra jamais. C'est quelque chose de difficile, effectivement, et il faut toujours bien tenir compte que l'être humain s'est inventé les mots pour cadenasser ses angoisses. Et donc répondre comme ça, c'est beaucoup plus moins angoissant, et ça va permettre à l'enfant de construire autour de sa propre représentation du traumatisme, c'est-à-dire papa et maman risquent un jour de disparaître. C'est vrai, mais ce sera pour bien, dans bien longtemps. Et dans bien longtemps, pour un enfant, ça veut dire éternellement.
Anne Lucas.
Et il me semble que c'est François Zolto qui disait « on meurt quand on a fini sa vie ». Voilà, et moi j'aime beaucoup cette phrase, parce que quand on a fini sa vie, voilà, on meurt. Et ça donne pas une temporalité, c'est un fait. Et moi je trouve que répondre ça à un enfant, c'est « tu vois, t'as toute ta vie avant, donc on est tranquille ».
Rappelez cette phrase de Zolto.
On meurt quand on a fini de vivre. Effectivement, c'est resituer la mort dans le droit fil de la vie. Ça, je pense que c'est vraiment important. Juste un tout petit mot pour revenir à la question des attentats. Ce que je trouvais quand même intéressant dans ce petit reportage là qu'on a entendu, voilà, c'est que on sent à la fin, voilà, on amène des fleurs, etc. C'est-à-dire qu'on voit bien ce qui s'est passé autour des attentats quand on s'est mobilisé tous ensemble pour faire une marche, pour être ensemble, pour mobiliser pour la vie, au fond. Hein. Et ça a été vraiment très important pour les enfants de participer à ces mouvements-là. Voilà, comment on peut être ensemble et se mobiliser pour la vie après que la mort ait frappé.
Allez, il est temps de retrouver la chronique de Julien Bisson, hein, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. Alors, vous évoquez un sujet qui intéresse moins les enfants que leurs parents, le logement.
Encore que, vous savez, les petits-enfants entendraient peut-être moins souvent leurs parents leur demander de ranger leurs jouets si ceux-ci ne traînaient pas dans le salon, faute de place dans leur chambre rikiki. Car je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, j'ai souvent l'impression de payer un peu cher mon logement. Tous les mois, il y a toujours un moment où je me sens un peu à l'étroit entre mes quatre murs, et la seule chose qui sonne vide, c'est mon compte en banque. Dans une France fracturée entre centre et périphérie, le logement, bien plus encore que le carburant, constitue aujourd'hui le principal poste dépense dans le budget des ménages, une charge lourde, jusqu'à 40% du budget pour les plus modestes, et qui ne cesse de creuser le fossé entre population aisée et classe populaire. Fossé économique, évidemment, avec des propriétaires qui tirent profit de leur capital quand les autres doivent se résigner à la hausse sans fin des loyers. Fossé géographique, surtout. Avec un prix moyen au mètre carré qui approche désormais les 10 000 euros à Paris et des arrondissements où près d'un quart des logements sont mués en résidence secondaire ou location de courte durée, Paris intramuros pousse toujours plus de classes moyennes hors de ses remparts. Un phénomène qu'on constate dans la plupart des grandes villes françaises, désormais érigées en citadelles bourgeoises, dont sont exclues les catégories modestes à vitesse grand V, avec au passage une sacrée rancœur sur le porte-bagages, aux classes aisées les transports de qualité, les écoles prisées, les terrasses végétalisées, aux autres l'éloignement, le sentiment de déclassement, quand ce n'est pas la relégation dans des ghettos sans plus aucune forme de mixité.
Alors Julien Bisson, comment faire pour échapper au logement cher ?
Alors vous pouvez toujours attendre que les taux d'intérêt augmentent, ce qui serait le seul véritable levier du changement, selon l'urbaniste Jean-Claude Drian, ou parier sur une politique publique ambitieuse qui reposerait sur la construction de logements sociaux dans les zones tendues, une fiscalité accrue sur la rente immobilière ou une solidarité plus marquée entre les territoires, comme le souhaite Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Vous pouvez aussi vous résoudre à rejoindre la cohorte des locataires de la débrouille qu'a rencontré notre reporter Manon Polic, comme Vanessa, 26 ans, qui s'est installée en coloc avec deux autres mères célibataires comme elle, comme Catherine, 53 ans, contrainte de quitter son 200 m² et qui s'est résignée à investir dans une tiny house, vous savez, ces maisonnettes en bois montées sur des remorques. Ou encore Maria, 37 ans, qui avec son compagnon a mis à profit les logements proposés par Camelot, une entreprise qui propose des logements temporaires au sein de biens immobiliers vacants, qui abritait auparavant des hôpitaux, des écoles, des bureaux, voire des casernes militaires, et qui loge ces gens pour éviter les squatteurs. Bref, des solutions de passage, des solutions qu'on voudrait temporaires, mais qui en disent long sur nos logements trop précaires. Alors il paraît que le mot gentrification vient de l'ancien français gentry, le même dérivé du mot gentil. Mais il n'y a pas grand-chose de gentil dans la dérive que nous connaissons. Alors la prochaine fois que je marche sur un jouet de mon fils abandonné dans le salon, faute de place dans sa chambre rikiki, vous ne vous étonnerez pas si j'accroche à ma porte un écriteau. Attention, papa méchant.
Pourquoi se loger est-il si cher? C'est le thème du tout nouveau numéro de l'hebdomadaire Le 1 cette semaine, disponible en kiosque et en librairie. Vous restez évidemment avec nous, Julien Bisson. Alors dites-nous, quelle est votre méthode pour parler de certains sujets sensibles avec vos enfants ou petits-enfants? 01 45 24 7000.
Yeah.
Tous ensemble. Joe Joa et le lieutenant Nicholson interprètent Tous ensemble.
Vous en rêviez un des désannoncés, Julien Buisson. Mais c'est fait en cette fin de saison.
Papa,
oui.
C'est quoi un nazi?
Demande à ton grand-père.
Grand bien vous fasse.
C'est qui Dieu?
Dieu? Bah, c'est papa.
À lire et béi.
Oui, mais Jésus, c'est qui?
Jésus, c'est le concierge.
Sur France Inter.
Quand on parlait de certains sujets au tout petit, c'est notre thème ce matin à 10h46. Tiens, mais tiens, Martine Lafont, vous êtes philosophe. Comment on explique Dieu tout petit?
Ça a beaucoup occupé les philosophes du Moyen-Âge. Et expliquer Dieu, c'est toujours compliqué parce qu'après, il y a la notion de religion qui rentre en cause. Hein, mais c'est pas seulement en Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous relie à Dieu? Comment l'homme se place face à quelque chose de plus grand que lui? Et ça, c'est pas évident. Alors, évidemment, on peut encore une fois repartir des origines, c'est-à-dire que pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Donc, c'est une vaste question. Mais en même temps, les enfants, quand on leur dit ça, ils disent ben oui, c'est vrai, au fait, pourquoi y a. Et donc, on en profite pour essayer de pousser le raisonnement plus loin. Et de voir que si quelque chose existe, est-ce qu'il y aurait, est-ce que ce serait possible, ou voilà, on va prendre ce biais-là de la métaphysique. Mais aussi, on peut prendre le biais de la religion, c'est-à-dire comment l'homme a pensé qu'il y avait quelque chose au-dessus de lui, au-delà de lui. Voilà. Donc, on tâtonne nous aussi, mais ça a occupé, je crois, presque 5 siècles du Moyen Âge. Donc, on peut s'y référer. La scolastique est là. Vous pouvez ouvrir les livres.
Un courriel. Mon petit-fils m'a un jour donné une leçon de philosophie. Il avait 5 ans quand il m'a dit « Je crois que j'ai compris, avant on n'existe pas, ensuite on existe, après on n'existe plus ». Martine Lafont.
Oui, avant on n'existe pas. Et donc, moi j'avais écrit un livre un petit peu léger qui s'appelait « Bec en l'air ». Et « Bec en l'air » était tout seul dans le rien. Et il se disait « Mais comment je vais faire? Il faut que je trouve un autre ». Et finalement, il trouve un arbre. Et à la fin, qui est du côté de la lumière. Et du coup, les enfants me demandaient toujours « Mais maintenant qu'ils sont deux ?» Est-ce qu'ils vont se marier ?» Donc la question philosophique de « Qu'est-ce qu'il y a avant ?» et que pourquoi quelque chose existe, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, était finalement ramené à quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Est-ce qu'ils vont se marier, c'est-à-dire être heureux, s'unir, avoir un alter ego ou pas?
Voilà. Alors, comment expliquer ses origines à un tout petit, docteur Marignol Clément? Je rappelle que vous publiez « Comment te dire ?». Les origines, ce sont les fondations de l'enfant en construction, et il y a évidemment plusieurs cas de figure.
Exactement. Alors, il y en a de plus en plus, d'ailleurs, des cas de figure aujourd'hui. Il y a eu un temps où c'était plus simple d'expliquer la question des origines. Aujourd'hui, notamment avec les questions de procréation médicalement assistée, il y a de multiples possibilités. Alors, peut-être pour avoir les choses clairement en tête pour les parents, se dire que il y a 3 piliers sur lesquels l'enfant se construit. Le premier pilier, c'est le pilier. Alors, je les mets sans ordre, d'ailleurs, de préférence, hein, sans ordre hiérarchique. Mais il y a un pilier qui est le pilier biologique, hein, c'est-à-dire qui sont mes parents biologiques. Il y a le pilier administratif, hein, qui m'a reconnu, qui m'a donné mon nom. Et il y a le pilier éducatif, quel est mon environnement éducatif, qui m'éduque. Alors dans les familles, on va dire les plus traditionnelles, les 3 piliers sont confondus. Et puis il y a un certain nombre de situations où les 3 piliers sont disjoints, alors soit 2 et 1, soit carrément 3 différents. Et peut-être il faut rester assez méthodique en ayant ce schéma en tête. Alors évidemment vous allez expliquer ça à un tout petit, il va pas y comprendre grand-chose. Mais la question,
c'est ce que je voulais vous dire.
La question, c'est de pouvoir le dire le plus tôt possible pour pouvoir aussi soi-même s'habituer à le dire. C'est-à-dire s'habituer à prononcer les mots, s'habituer à expliquer que l'enfant a été adopté, que l'enfant est issu d'une procréation médicalement assistée, qu'il y a un monsieur qui a donné une petite graine parce que, voilà, papa n'avait pas de petite graine pour faire ce bébé, par exemple, et de pouvoir s'habituer soi-même à prononcer les mots de façon à ce que l'enfant grandisse en ayant la possibilité de poser des questions.
J'aimerais qu'on écoute le témoignage d'Anne. Bienvenue Anne dans Grand Main vous fasse.
Bonjour.
Bonjour. Votre fille est issue d'une procréation médicalement assistée, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Expliquez-nous un petit peu.
Eh bien, quand elle était toute petite, dès qu'elle a tenu assise, en fait, et puis que quand on lui donnait à manger, elle flanquait des coups de main dans sa petite cuillère qui volait, il y en avait partout. Donc, dès les premiers petit problème à régler, je suis passée par l'intermédiaire de deux peluches qu'elle avait pas trop loin d'elle. Et ces deux peluches, je leur avais attribué une voix. Il y avait Lapinou et Nounours. Et puis, ils se disputaient tout le temps pour donner des arguments. Et ma fille était extrêmement attentive, même si elle ne comprenait pas tout. Et du coup, j'ai pu, dès toute petite, même avant qu'elle puisse comprendre et parler, et me dire qu'elle comprenait, je le lui disais. Donc, qu'on n'arrivait pas à faire de petits frères ou de petites sœurs parce que les petites graines marchaient pas bien. Et puis, petit à petit, de dire que déjà, elle aussi... avait eu ce était issu d'une petite graine qui n'était pas celle de son papa et qui était présent, qui l'éduquait. Donc c'est passé par ça et c'était elle était très amusée par ces deux peluches qui discutaient tout le temps le bout de gras et c'est vrai que ça me permettait de faire passer plein de messages qui du coup malgré le fait que c'était moi qui parlais elle entendait, ça passait par un autre biais, il y avait un intermédiaire et ça passait très très bien.
Marie-Noëlle Clément.
Oui, très bien, très bonne idée. Oui, très bien.
On peut recourir également au livre.
Oui, on peut recourir au livre. Alors effectivement, on le disait déjà dans la dernière émission, sur tous les sujets compliqués, il existe une multitude d'ouvrages pour les petits. Alors mieux vaut les lire quand même d'abord, avant de les lire avec l'enfant, pour savoir un petit peu, parce qu'ils ne sont pas tous forcément très bien adaptés, mais voilà, on peut effectivement s'appuyer sur des lectures.
Bruno Humbeck.
Je crois qu'il faut terriblement se méfier de son cortex. Hein. J'entends beaucoup, il faut que l'enfant comprenne. C'est pas important qu'il comprenne. L'enfant est une personne, disait Olto, il n'a pas dit que c'était une grande personne. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit s'inscrire dans une histoire. Donc c'est pour ça que les histoires vont être très utiles. Et c'est bien expliqué en disant on a mis en scène quelque chose. Le tout, c'est d'avoir une histoire qui semble effectivement... susceptible d'être géré par nous-mêmes. Le fait d'être issu d'une procréation assistée, par exemple, c'est aussi le signe qu'on était fortement désiré. Moi, je pense qu'il vaut beaucoup mieux raconter l'histoire d'un enfant qui a été très très fort désiré que l'aspect biologique, effectivement, dont l'enfant n'a pas grand-chose à foutre, en fait. Hein. En réalité, il veut juste une histoire. C'est pour ça qu'on peut utiliser l'histoire des autres, y compris les histoires collectives. On l'a un peu abordé tout à l'heure. La question de la religion, par exemple, regarde, Anna Arendt le disait, les familles sont des protopolitiques. Il y a des religions d'imprégnation. On explique à l'enfant tout petit, au moment où il n'a pas de distance critique, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a un Dieu, c'est lui qui te guide. Nous sommes peut-être plus, dans nos sociétés, dans des religions qui sont soumises à réflexion, le fameux âge de raison. Et on va nous dire, il y a des choses discutables, il y a des choses qui sont toujours contestables. Et donc, on va devoir chacun bricoler sa propre histoire. Dans nos sociétés, on bricole une histoire individuelle. Dans d'autres sociétés, on bricole une histoire collective. C'est pas à nous à juger ce qui est mieux et moins bien. En tout cas, le tout, c'est de tenir à une histoire qui tient la route.
Anne-Luca.
Oui, et puis laisser place à l'imaginaire aussi, c'est important. C'est-à-dire que savoir comment on fait les bébés, c'est une chose. Et puis, pouvoir imaginer comment on le fait aussi, c'en est une autre. Et je trouve que c'est important parce que on le saura bien assez tôt. Et que, effectivement, je suis d'accord sur le fait que les parents doivent s'habituer à pouvoir le penser et pouvoir le dire. Et en même temps, dans la temporalité de l'enfant, on répond aussi aux questions quand elles arrivent. Et pas forcément tout le temps avant, parce que voilà, on doit expliquer, on doit faire comprendre. L'enfant doit comprendre. L'enfant comprend pas la même chose que nous. Il comprend à sa mesure. Donc attention à dire et en même temps à laisser ces portes-là ouvertes.
Oui, je suis tout à fait d'accord. La question, c'est que l'enfant ne pose des questions que s'il se sent autorisé à les poser. Donc c'est là où il y a une mission des parents à laisser la porte ouverte. Alors laisser la porte ouverte, c'est pas forcément tout expliquer avant que les questions n'arrivent, on est d'accord. Mais c'est en tout cas laisser la possibilité à l'enfant de venir avec ses questions. Sur la question des origines, il faut quand même bien comprendre que c'est là-dessus qu'on se construit. Tous. Donc c'est une donnée à laquelle on a droit. Donc à partir de là, il faudra pouvoir l'aborder à un moment ou à un autre, et en tout cas effectivement autoriser l'enfant à venir avec ses questions, c'est déjà très important.
Merci beaucoup Anne de nous avoir appelé ce matin. Alors comment parler aux tout petits de sexualité? Freud évidemment nous a ouvert les yeux, hein, sur la sexualité infantile. C'est un sujet délicat que beaucoup de parents ont du mal à aborder. Quelles sont les règles fondamentales, Marie-Noëlle Clément?
Alors, les règles fondamentales, c'est effectivement C'est effectivement une question. La question de la mort et la question de la sexualité, tous les parents savent qu'elles vont arriver à un moment ou à un autre, et ça nous cueille toujours comme si, voilà, c'était la grande surprise. On ne sait jamais quoi répondre, on ne sait jamais comment l'aborder, etc. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand un enfant de 3, 4 ans demande comment on fait les bébés, il ne demande pas à ce qu'on lui explique ce qu'est un rapport sexuel. Sa question, c'est en fait d'où je viens, moi. Enfin voilà, pourquoi je suis là, pourquoi je suis là. Donc il faut bien prendre garde à ne pas plaquer nos représentations d'adultes en réponse à leurs questions d'enfants. Et je crois qu'il faut aussi passer par le fait de leur demander à certains moments, en fonction des questions qu'ils posent, qu'est-ce qu'eux ils imaginent, qu'est-ce qu'ils ont compris ou pas, etc. De façon à adapter nos réponses à leurs représentations et à pas venir faire effraction dans leur imaginaire avec quelque chose qui serait beaucoup trop avancé pour eux ou des représentations qu'ils n'auraient pas du tout encore.
Et puis il est très important de ne surtout pas parler de sa propre sexualité.
Très important de ne surtout pas parler de sa propre sexualité, de ne pas montrer sur son propre corps, ça on est bien d'accord. Répondre à la question de la sexualité, de comment on fabrique les bébés, ça commence déjà par réénoncer la différence sexuelle. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une femme, pourquoi c'est nécessaire d'avoir cette altérité pour fabriquer un enfant, et que aujourd'hui, malgré tous les progrès, de la biologie, c'est encore nécessaire d'avoir cette altérité-là.
Anne-Lucas.
Et puis parfois, c'est intéressant de l'interroger sur qu'est-ce qu'il en a entendu et de quoi il en a discuté, parce que dans les cours d'école, quand même, il y a beaucoup de théories et beaucoup d'idées sur la question, et ils en discutent beaucoup, et donc on est quand même assez surpris parfois de savoir ce qui se dit et ce qui se joue, et des choses qui peuvent parfois faire peur aussi. Donc qu'est-ce que t'as compris, qu'est-ce que t'as entendu, puis toi t'en penses quoi?
C'est pour ça qu'il est important très tôt d'apprendre à nommer toutes les parties du corps, quand on donne le bain, quand on habille l'enfant. Marie-Noëlle Clément, c'est important ça.
Oui, c'est ce que nos voisins suisses appellent l'éducation sexuelle implicite, c'est-à-dire il ne s'agit pas effectivement d'expliquer la sexualité, mais quand on change un enfant, on dit volontiers le petit bras, les petits doigts, les petites mains, et puis les parties sexuelles sont beaucoup plus rarement nommées. Donc on peut aussi, ça fait partie du corps, voilà, c'est important de les faire exister.
Alors je crois que c'est important, c'est l'image de soi, en gros, et on est toujours dans cette estime de soi qu'on doit préserver, c'est-à-dire, et dans le mot estime de soi, le mot le plus important, c'est soi, c'est-à-dire le récit que je raconte à propos de moi-même. Et ce qui est important, c'est de raconter un récit accessible à l'enfant, et vis-à-vis desquels les informations, y compris biologiques, qu'il recevra tôt ou tard, ne viennent pas faire effraction, parce que ce serait une contradiction par rapport à ce qu'on lui a raconté. Donc raconter un récit très court et qui permet à l'enfant de s'inscrire positivement dans une histoire.
Un mot de conclusion, Martine Lafont.
Oui, moi je pense que je vous rejoins tout à fait. C'est sur l'estime de soi. Donc les philosophes comme Merleau-Ponty ont dit « je suis mon corps », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dualité. Il faut que je l'investisse et que c'est avec ce corps que je vais investir, que je vais vivre, que je vais exister, que je vais rencontrer le monde et que je vais rencontrer les autres. Donc c'est ça qui est intéressant. Je vous rejoins complètement.
Merci à tous. Merci d'être venu. Merci Marie-Noëlle Clément. On peut lire avec profit. Comment te dire? Savoir parler aux tout petits en poche et pocket. Merci beaucoup Anne-Lucas. Je vous laisse. Vous allez retourner dans votre PMI dans le 18e arrondissement de Paris. Merci Martine Lafont. L'agenda de l'apprenti philosophe est publié aux éditions de la Martinière. Merci beaucoup Bruno Hombeck. Le titre de votre dernier livre, vous publiez beaucoup. Je ne sais même pas lequel.
Mais moi non plus.
Bon, voilà. Toute la bibliographie sur franceinter.fr. Demain, avant l'été, nous vous proposerons quelques escapades en France qui vous feront du bien. Et racontez-nous les destinations françaises qui vous enchantent, qui vous rendent heureux. 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Main Vous Fasse et l'appli France Inter. La technique ce matin, Élise Christophe et Elisabeth Collet.